Le rendez-vous dans Soho. Trois semaines après, Austin reçut un mot de Villiers, le priant de passer chez lui cet après-midi ou le suivant. Austin, ayant choisi le plus tôt, trouva Villiers assis à son ordinaire près de la fenêtre et qui paraissait perdu en méditation sur le languissant commerce de la rue. Il y avait près de lui une table en bambou, dorée et peinte, et dessus, une petite pile de papier, aussi nettement rangée et étiquetée que quoi que ce fût dans le bureau de M. Clark. « Eh bien, Villiers, avez-vous fait quelques découvertes durant ces trois semaines ?»«
Je pense. J'ai ici une note ou deux qui m'ont frappé, et voici un rapport sur lequel j'appelle votre attention. »«
Et ces documents ont trait à Mme Beaumont ? Et c'était bien Crashaw que vous avez vu sur le seuil de sa porte dans Ashley Street ?»
Quant à cela, ma conviction reste entière, quoique ni mon enquête ni mes découvertes n'aient eu spécialement trait à Crashaw. Mais ces recherches ont eu un résultat. J'ai pu déterminer qui est Madame Beaumont.
Qui est Madame Beaumont? Dans quel sens l'entendez-vous?
Je veux dire que nous la connaissons mieux sous un autre nom.
Sous quel nom?
Herbert.
Herbert? Répéta Austin.
Oui, la Madame Herbert de Paul Street. L'Hélène Vaughan d'aventures antérieures que j'ignore encore. Vous aviez raison de reconnaître sa physionomie. En rentrant chez vous, regardez le portrait qu'a dessiné Meyrick dans son livre des horreurs et vous connaîtrez la source de votre ressouvenance.
Et vous avez la preuve de tout cela?
La meilleure des preuves. J'ai vu Madame Beaumont. Madame Herbert, si vous aimez mieux.
Où l'avez-vous vue?
Pas à l'endroit où vous iriez chercher une dame d'Ashley Street, Piccadilly. Mais dans une des rues les plus sordides et les plus mal famées de Soho, et elle entrait dans une maison. En fait, j'y avais pris rendez-vous, quoique non pas avec elle. Elle fut exacte, et quant à l'heure, et quant au lieu.
Tout cela paraît presque incroyable. Rappelez-vous, Villiers, que j'ai vu cette femme parmi le flot ordinaire du monde, causant et riant et humant son chocolat, dans un salon banal au milieu de gens banals. Mais après tout, vous savez ce que vous dites.
Assurément. Et je ne me suis pas laissé mener par mes imaginations ni mes fantaisies, car je ne pensais guère à trouver Hélène Vaughan alors que je poursuivais Madame Beaumont dans les eaux les plus troubles de Londres. Tel a été pourtant le cas.
Vous avez dû aller dans de drôles d'endroits, Villiers.
Oui, j'ai été dans de très drôles d'endroits. Il aurait été inutile, vous savez, de courir à Ashley Street, demander à Madame Beaumont une petite esquisse de son existence antérieure. Présumant, et c'était présumable que ses annales n'étaient pas des plus nettes, il était presque certain que jadis, elle avait fréquenté des cercles moins raffinés qu'aujourd'hui. Si vous voyez de la vase à la surface d'une rivière, vous pouvez être certain qu'elle vient du fond. J'allais au fond. J'ai toujours aimé à plonger dans Queen Street pour mon plaisir. Et en l'espèce, ma connaissance des êtres et des habitants m'a été de grand usage. Il est inutile de vous dire que mes amis n'avaient jamais entendu prononcer ce nom de Beaumont. Et, comme je ne connaissais pas la dame et que, partant, je ne pouvais la décrire, il m'a fallu travailler indirectement. Les gens de ce quartier-là me connaissent. J'ai rendu à l'occasion de petits services à quelques-uns d'entre eux, ce qui fait qu'ils m'ont communiqué sans difficulté leurs renseignements, d'autant plus qu'ils me savaient sans relation directe ou indirecte avec Scotland Yard. Néanmoins, il me fallut jeter beaucoup de lignes avant d'attraper ce que je voulais, et quand j'eus ferré le poisson, je ne crus pas d'abord que c'était le mien. Mais par suite d'un amour instinctif pour les informations inutiles, j'écoutais ce qu'on me contait et me trouvais ainsi plus riche d'une autre histoire, quoique sans rapport avec la mienne, pensais-je. Voici la chose. Il y a environ 5 ou 6 ans, une femme du nom de Raymond apparut tout à coup dans le quartier dont je vous parle. On la décrit comme fort jeune à cette époque, âgée probablement de 17 ou 18 ans, très belle et paraissant venir de la campagne. Je mentirai en disant qu'elle trouva son milieu naturel dans ce quartier et les gens qui l'habitent, car, d'après les récits qu'on m'a faits, la pire tanière de Londres est encore trop bonne pour elle. La personne qui me donna ces détails, rien de moins qu'un puritain, comme vous pensez, semblait mal à l'aise à me dire tout ce qu'on attribuait à l'étrangère. Après avoir vécu là 1 an, peut-être moins, elle disparut aussi soudainement qu'elle était venue. Et l'on n'en entendit plus parler qu'à l'époque de l'affaire de Paul Street. Elle ne revint tout d'abord à ses anciens repères qu'occasionnellement. Plus fréquemment ensuite, elle finit même par se loger comme autrefois dans le quartier et y passa 5 ou 6 mois de suite. Il est inutile d'entrer dans des détails sur sa façon de vivre et, si vous en désirez, regardez le legs de Meyrick. Ses dessins ne sortaient pas de son imagination. Elle disparut de nouveau, et on la perdit jusqu'à ses derniers mois. À cette époque, d'après mon informateur, elle avait loué plusieurs pièces dans une maison qu'il m'indiqua, et elle se rendait à cet appartement deux ou trois fois par semaine, toujours à 10 heures du matin. On me fit entendre qu'elle y devait venir un certain jour de la semaine suivante, et je m'arrangeai en conséquence pour faire le guet avec mon cicérone à 10 heures moins le quart. Une égale ponctualité nous amena l'heure et la dame. Nous nous tenions alors sous une porte en retrait de la rue, mais elle nous vit et me lança un regard que je serais long à oublier. Ce regard était suffisant pour me faire reconnaître Madame Herbert dans Miss Raymond. Quant à Madame Beaumont, elle m'était bien sortie de la tête. Cependant, la dame était entrée au gîte. J'attendis jusqu'à 4 heures qu'elle en sortit et me mis à la suivre. Ce fut une longue chasse, et il me fallait prendre grand soin de rester assez en arrière, sans pourtant la perdre de vue. Elle me mena dans le Strand, puis à Westminster, enfin à St. James Street et Piccadilly. Une surprise me vint à la voir tourner dans Ashley Street, et la pensée que Madame Herbert et Madame Beaumont ne faisaient qu'une. Mais cela était encore bien improbable. Cependant, je me mis au guet, ne la quittant pas des yeux et notant la maison où elle entrait. C'était la maison aux rideaux de joie, la maison fleurie, la maison d'où Crashaw était sorti la nuit qu'il se pendit dans son jardin. Je repartais avec mon butin d'information quand une Victoria découverte passa et alla s'arrêter devant cette même maison. J'en conclus, et avec justesse, que Madame Herbert allait faire une promenade. Je pris un cab et suivis sa voiture au parc. Là, je tombai sur quelqu'un de connaissance, et nous nous mîmes à causer, pas très loin du chemin des voitures auquel je tournais le dos. Nous étions là depuis 10 minutes à peine, quand mon ami salua. Je me retournai et reconnus la femme que j'avais suivie tout le jour. « Qui est-ce » demandai-je, et la réponse fut « Madame Beaumont, elle demeure dans Ashley Street. » Il n'y avait plus de doute. Je ne sais si elle me vit, mais je ne crois pas. Là-dessus, je rentrai et, à la réflexion, conclus que mon cas valait la peine d'être porté chez Clark.
Pourquoi chez Clark?
Parce que j'étais sûr que Clark connaissait au sujet de cette femme des choses que j'ignore.
Et alors?
Monsieur Villiers s'assit et regarda fixement Austin en répondant.
Mon idée est que Clark et moi, nous allions chez Madame Beaumont.
Vous n'irez pas dans une maison pareille. Non, non, Villiers, vous ne pouvez pas faire cela. De plus, considérez quel résultat.
Je vous le dirai. Mais j'allais ajouter que mes renseignements ne s'arrêtent pas là. Ils ont été complétés d'une façon inopinée. Regardez ce joli manuscrit. Il est paginé, vous voyez, et j'ai poussé la coquetterie jusqu'à le nouer d'un ruban rouge. On dirait des papiers d'affaires, vous ne trouvez pas? Parcourez-les, Austin. C'est le compte-rendu des distractions que Madame Beaumont offrait à ses hôtes de choix. L'homme qui a écrit cela s'en est tiré vivant, mais je ne pense pas qu'il en ait pour longtemps. Les médecins déclarent qu'il a dû éprouver une grave secousse.
Austin prit le manuscrit, mais ne le lut pas. Ayant ouvert au hasard ses pages proprettes, son œil fut accroché par un mot suivi d'une phrase. Et, le cœur soulevé, avec des lèvres blanches et une sueur aux tempes, il jeta le papier par terre.
« Reprenez-le, Villiers, et ne m'en parlez jamais. »« Et quoi, homme, êtes-vous fait de pierre ?»« Quoi, mais la crainte et l'horreur même de la mort et les pensées de celui qui se tient debout, liés sur le noir échafaud dans le petit matin, tandis que la cloche lui tinte aux oreilles et qu'il guette le bruit du déclenchement, ne sont rien comparés à ceci. Je ne veux pas le lire. Je ne dormirai plus. »«
Soit. J'imagine sur quoi vous êtes tombé et c'est assez laid. » Mais après tout, c'est une vieille histoire, un antique mystère retapé de nos jours, où les rues noires de Londres remplacent comme décor les vignobles et les jardins d'olives. Nous savons ce qui advenait de quiconque rencontrait le dieu Pan. Les sages savent que tout symbole est symbole d'une réalité, non pas de néant. Et c'était en vérité un symbole exquis que celui-là, sous lequel les hommes de jadis voilaient les forces secrètes et redoutables qui sont au cœur de toute chose, les forces devant qui l'âme humaine se fane et meurt, noircie comme le corps même le serait par des courants électriques. Ces forces ne peuvent se nommer ni concevoir que sous un voile qui apparaît à la plupart comme une fantaisie de poète, à quelques-uns comme le conte des niais et des fous. Mais vous et moi, Nous avons connu en quelque chose la terreur qui peut habiter les royaumes secrets de la vie, par-dessous la chair. Nous avons vu ce qui est sans forme assumer une forme. Oh, Austin, cela se peut-il? Comment le soleil lui-même ne devient-il pas ténèbre devant ces choses et la terre décombre sous un pareil fardeau?
Villiers se promenait de long en large dans la chambre et des gouttes de sueur perlaient à son front. Austin se tenait silencieux, mais Villiers le vit faire un signe.
« Je le répète, Villiers, vous n'irez jamais dans une telle maison. Vous n'en sortirez pas vivant. »«
Si, Austin, j'en sortirai vivant. Moi et Clark. » »«
Que voulez-vous dire? Vous ne pouvez pas. Vous ne devriez pas. »
Attendez. Il faisait bon et frais sous la brise ce matin, même dans cette triste rue, et j'eus envie d'une promenade. Piccadilly déployait devant moi sa perspective claire et brillante, et le soleil luisait sur les voitures et sur les feuillages frissonnants du parc. C'était un joyeux matin. Hommes et femmes regardaient le ciel et souriaient en se rendant à leur œuvre de plaisir, et le vent soufflait aussi mollement qu'il souffle ailleurs, sur des prairies ou sur le parfum des bruyères. Je ne sais comment je me trouvais, hors du tumulte et de la gaieté, arpentant une rue taciturne, où l'on ne goûtait ni le soleil ni l'air, où les passants marchaient sans hâte et musés aux portes. Moi, j'allais, sachant à peine où et pourquoi faire, mais comme contraint, ainsi qu'on l'est parfois d'avancer avec le soupçon seulement d'un but inconnu. Ainsi, j'allais, attentif tour à tour au mince commerce des laiteries, ou surpris du mélange incongru de pipes à un sou, de tabac noir, de bonbons, de journaux, de chansons comiques entassées dans l'espace étroit d'une seule vitrine. Enfin, un frisson, je pense, m'avertit que j'avais trouvé, et, après avoir regardé autour de moi, je m'arrêtai devant une boutique poussiéreuse, dont l'enseigne avait fané, dont les briques, rouges il y a 200 ans, avaient tourné au noir, dont les fenêtres avaient subi le brouillard et la boue d'innombrables hivers. Je vis ce dont j'avais besoin. Mais je pense qu'il me fallut bien 5 minutes avant de me maîtriser et de pouvoir demander cela d'une voix et d'un visage calme. Je suppose qu'il y eut tout de même un tremblement dans mes paroles, car le vieil homme que je fis sortir de sa noire arrière-boutique et qui tâtonnait à travers ses marchandises me jeta un regard soupçonneux, tandis qu'il ficelait mon paquet. J'avais payé, que je me tenais encore au comptoir avec une étrange répugnance à saisir mon emplette et à m'en aller. Je lui parlais de son commerce et appris ainsi que ça allait mal, que les bénéfices baissaient beaucoup, que l'âme n'était plus ce qu'elle avait été jadis, avant que le courant commercial en eût été détourné, et que cela s'était fait 40 ans avant. « Juste à la mort de mon père, » ajouta-t-il. Je sortis enfin et m'éloignai vivement. Rue mélancolique, certes. Je fus content de retrouver la cohue et le bruit. « Voulez-vous voir mon achat ?»
Austin ne dit rien, mais inclina un peu la tête. Il paraissait de plus en plus pâle et affecté. Villiers ouvrit un tiroir de la table en bambou et montra à Austin un long rouleau de cordes dures et neuves, terminé à un bout par un nœud coulant.
« C'est la meilleure qualité de chanvre, » dit Villiers. « Telle qu'on l'employait dans l'ancien commerce, m'a dit l'homme. Pas un fil de jute d'un bout à l'autre. »
Austin sentit ses dents se serrer et contempla Villiers en pâlissant.
« Vous ne ferez pas cela, » murmura-t-il enfin. « Vous ne voudrez pas verser de sang. »«
Mon Dieu !» s'exclama-t-il avec une véhémence soudaine. « Ce n'est pas cela que vous voulez dire, Villiers, que vous allez faire le bourreau. »« Non. La créature aura le choix, et je la laisserai seule et sous clé 1/4 d'heure avec cette corde. Si, quand nous rentrerons, tout n'est pas fini, j'appellerai le premier policeman. Voilà. »«
Je m'en vais. Je ne puis demeurer plus longtemps, ni entendre cela. Bonsoir. »
Bonsoir, Austin.
La porte se ferma. Un instant après, Austin était là, encore, pareil à un spectre.
J'oubliais, dit-il, que j'ai aussi mon information à donner. Une lettre de Buenos Aires, du docteur Harding, m'apprend qu'il a soigné Meyrick pendant ces 3 dernières semaines.
Et vous dit-il ce qu'il a enlevé en pleine jeunesse? La fièvre?
Non, pas la fièvre. D'après le docteur, ce serait un affaissement général de l'organisme, dû sans doute à un grave ébranlement. Mais il ajoute que le malade ne lui fit aucune confidence et qu'il se trouvait par suite en état d'infériorité pour traiter le cas.
C'est tout?
Oui. Le docteur Harding finit sa lettre ainsi. « Je pense que voilà tous les renseignements que je puis vous donner sur votre pauvre ami. Il n'a pas demeuré longtemps à Buenos Aires et n'y connaissait personne, à l'exception d'une dame qui ne jouit pas de la meilleure réputation. Elle est partie depuis, et on l'appelait Madame Vaughan. Fragment. Parmi les papiers du docteur Robert Matson, le médecin bien connu d'Ashley Street, qui mourut subitement d'apoplexie au commencement de 1892, on trouva une feuille couverte de notes au crayon. Ces notes étaient d'un latin abrégé et avaient évidemment été écrites très à la hâte. Le manuscrit n'a été déchiffré qu'avec de grandes difficultés, et jusqu'ici, certains mots ont échappé à l'effort de tous les experts. Au coin de droite est écrite la date, 25 juillet 1888. Ce qui suit est la traduction des dites notes. La science profiterait-elle de ces brèves observations au cas où elles pourraient être publiées? Je ne sais, et j'en doute. Certes, je ne prendrai jamais la responsabilité de rendre public un seul mot de ce qui suit, non seulement à cause de ma parole librement donnée aux deux témoins, mais encore parce que ces détails sont trop répugnants. Il est probable que, tout bien considéré, et après avoir pesé le pour et le contre, je détruirai un jour ce papier ou le laisserai sous scellé à mon ami D, m'en rapportant à sa discrétion pour, à sa guise, en faire usage ou le brûler. Comme il convient, j'avais fait tout ce que prescrit la science pour n'être victime d'aucune illusion. Atterré au début, c'est à peine si la réflexion me resta, mais au bout d'une minute, je m'assurai que mon pouls était normal et que j'étais dans mon bon sens. Je repassais dans ma tête l'anatomie du pied et du bras, ainsi que les formules de quelques carbures, et alors je fixais mes regards sur ce qui était devant moi. Quoiqu'une nausée de révolte me vînt, et presque suffoqué par l'odeur de la corruption, je demeurais ferme, privilégié ou maudit, je ne sais, à voir ce qui gisait là, noir comme l'encre, et qui se transformait devant mes yeux. La peau, la chair, les muscles et les os, et la ferme structure du corps humain, tout ce que j'avais jugé jusque-là aussi invétéré, aussi permanent que le diamant, commença de fondre et de se dissoudre. Je savais que des agents extérieurs pouvaient ramener ce corps à ces éléments, mais j'eusse refusé de croire ce que je voyais maintenant, car il y avait là une force interne dont je ne savais rien et qui ordonnait la dissolution et la métamorphose. Ici se répéta devant moi tout l'effort dont l'homme est issu. Je vis la chose vaciller de sexe en sexe, se disjoindre et s'unifier à nouveau. Je vis le corps revenir aux bêtes dont il procède, et ce qui était au sommet des êtres descendre jusqu'au bas-fond, jusqu'aux abîmes. Mais le principe de la vie, qui crée l'organisme, demeurait stable cependant sous les transformations de la forme. La lumière de la pièce avait tourné aux ténèbres, mais non pas à ces ténèbres de la nuit, quand les objets ne se perçoivent plus que de façon vague. Je pouvais tout voir encore distinctement. C'était comme la négation de la lumière. Les objets étaient présents à mes yeux, si je puis dire, sans intermédiaire, et tellement que, s'il y avait eu un prisme dans la chambre, je n'en aurais pas distingué les couleurs. Je regardais toujours. Bientôt, je ne vis plus rien qu'une substance pareille à de la gélatine. Et puis, l'échelle fut remontée à nouveau. Ici, le manuscrit est illisible pendant plusieurs lignes. Un instant, je vis une forme obscurément figurée devant moi, que je ne veux pas décrire. Mais le symbole en peut être retrouvé en d'anciennes statues et dans ces peintures qui ont survécu sous la lave, trop infâmes pour en dire plus long. Et l'indicible apparence, homme et bête, reprit forme humaine, et la mort vint enfin. Moi qui ai vu tout cela, non sans répugnance, je mets ici mon nom, déclarant vrai tout ce qui est écrit ci-dessus. Robert Matheson, médecin, docteur. Telle est, Raymond, l'histoire de ce que je sais et de ce que j'ai vu. Le fardeau en était trop lourd pour moi seul, et je ne pouvais le partager qu'avec vous. Villiers, qui m'accompagnait à la fin, ne sait pas l'horrible secret de la forêt, et que ce que nous avons ensemble vu mourir jadis, couché sur le tendre gazon, parmi les fleurs, et tenant la petite Rachel par la main, appela et conjura ses compagnons, et, sur cette terre même qui nous porte, donna la forme matérielle à ce que nous ne nommons que par illusion et figure. Je ne voudrais pas dire ces choses à Villiers, non plus que la ressemblance qui me frappa au cœur quand je vis le portrait et combla enfin la coupe d'angoisse. Le sens de tout cela, je l'ignore. Je sais que ce que j'ai vu mourir n'était pas Marie, et pourtant, à la fin de son agonie, ce sont les yeux de Marie qui m'ont regardé. Personne ne découvrira-t-il le dernier anneau de cette chaîne de mystère ? Si quelqu'un le peut, c'est vous, Raymond. Et si vous savez ce secret, il vous appartient de le dévoiler ou non, à votre choix. Je vous écris cette lettre à peine revenue en ville. J'ai passé ces deux derniers jours à la campagne. Peut-être devinerez-vous où. Tandis que l'étonnement de Londres était au comble, car Madame Beaumont, je vous l'ai dit, était bien connue, j'écrivis à mon ami le docteur Phillips, lui donnant un bref aperçu de ce qui s'était passé et lui demandant le nom du village où avaient eu lieu les événements relatés par lui. Il me le donna sans hésiter, comme il le dit lui-même, le père et la mère de Rachel étant morts et le reste de la famille parti rejoindre un oncle dans l'État de Washington. Les parents, me disait-il encore, étaient sûrement morts de la douleur que leur avait causée la mort de leur fille et tout ce qui avait précédé cette mort. Le soir même du jour où je reçus la lettre de Phillips, j'étais à Carmen. À l'ombre des murs romains qu'ont ruinés et blanchis 1700 hivers, je contemplais la prairie où fut jadis consacré un temple au dieu des abîmes. Et une maison aussi qu'illuminait le soleil couchant. La maison où avait vécu Hélène. Je demeurai quelques jours à Carmen. Les gens, à ce qu'il me sembla, savaient peu de choses et en avaient deviné moins encore. Ceux à qui j'en parlais parurent surpris qu'un archéologue, je m'étais donné pour tel, s'occupât d'une tragédie villageoise, dont il ne donnait d'ailleurs qu'une version banale. Et vous pensez bien que je ne leur appris rien de plus. La plupart de mon temps s'écoula dans la grande forêt qui domine le village et gravit la colline et redescend jusqu'à la vallée. Une vallée aussi délicieuse, Raymond, que celle que nous contemplâmes ensemble par une nuit d'été de votre terrasse. Bien des heures, j'ai erré dans le dédale de la forêt, foulant les allées ombreuses et fraîches même à midi le long des broussailles ou m'arrêtant sous les chênes. Tantôt couché sur l'herbe courte d'une clairière où montait jusqu'à moi, avec le vent, l'odeur faible et sauvage des églantines nouvelles, mêlée au lourd parfum de leurs aînés. Senteur composée qui rappelle la chambre des morts aux vapeurs d'encens et de corruption. Je m'assis sur les bancs de gazon, à l'orée du bois, contemplant par-dessus les fougères la pompe et la théorie des digitales dans le soleil couchant. Et par-delà, les touffes épaisses des broussailles, les ronces nées du roc, les herbes d'eau humides et ténébreuses. Mais ces premières promenades évitaient une certaine partie du bois, et hier seulement, je montais jusqu'au sommet de la colline, jusqu'à l'ancienne voie romaine qui traverse les hauteurs de la forêt. C'est là qu'elles avaient passé, Hélène et Rachel, sur la paisible chaussée et le vert gazon, entre les remblais d'argile rouge et la haie luisante des hêtres. C'est là que je suivis leurs pas, contemplant par éclaircie le bois déployé sur deux penchants, et la vaste plaine, et plus loin, la mer jaunâtre, et la terre encore par-delà la mer. De l'autre côté, c'était la vallée et la rivière, les collines après les collines, comme des vagues après des vagues, les bois, les prairies et les champs de blé, les éclatantes maisons blanches, un mur de montagne et, dans le nord, les pics lointains et bleus. Et j'atteignis ainsi la place que je cherchais. La voie, en pente douce, formait une aire entourée de broussailles et s'étrécissant de nouveau, se perdait dans la distance et la buée bleue de l'ardeur estivale. Et c'est cette douce clairière d'été que Rachel jadis aborda fille et quitta Dieu sait quoi. Je n'y demeurai pas longtemps. Dans une petite ville près de Carmen, il y a un muséum contenant surtout des débris romains trouvés dans le voisinage en divers temps. Le lendemain de mon arrivée à Carmen, j'allais jusqu'à la ville en question pour visiter le musée. Après des pierres sculptées, des cercueils, des bagues, des monnaies, des fragments de mosaïques, on me montra un petit pilier carré de pierre blanche, récemment déterré dans le bois de Carmen, et comme je m'en assurais depuis, à la place même où s'élargit la voie romaine. Sur un des côtés de ce pilier, il y a une inscription dont j'ai pris note. Quelques lettres sont effacées, mais je ne pense pas qu'il y ait doute pour celles que j'ai suppléées. Voici l'inscription. Au grand dieu Nodens, le dieu de la grande profondeur ou de l'abîme, Flavius a élevé ce pilier en souvenir des noces qu'il a vues s'accomplir dans l'ombre. Le gardien du musée m'informa que les archéologues locaux étaient très embarrassés, non par la difficulté de lire et de traduire l'inscription, mais quant aux conséquences ou rites qu'elle évoque. Et maintenant, mon cher Clark, passons à ce que vous dites d'Hélène Vaughan, que vous avez vue mourir dans des circonstances d'une horreur profonde et presque incroyable. Votre récit m'a intéressé, mais presque tout ce qu'il contenait, tout de même, je le connaissais d'avance. Je m'explique facilement l'étrange ressemblance remarquée par vous dans le portrait et sur le visage même d'Hélène. C'est sa mère que vous aviez connue. Vous rappelez-vous cette paisible et chaude nuit où je vous parlais du monde, qui est par-delà les apparences et du grand pan? Vous rappelez-vous Marie? C'est elle qui mit au monde Hélène Vaughan, 9 mois après cette nuit-là. Marie ne recouvra jamais la raison. Elle resta alitée et telle que vous l'avez vue, et mourut peu de temps après l'accouchement. Je m'imagine qu'elle me reconnut à la fin. J'étais debout, à son chevet. Soudain, le regard d'autrefois revint à ses yeux. Elle frissonna, gémit et mourut. J'ai accompli une mauvaise œuvre la nuit que vous étiez là, Clark. J'ai brisé la porte de la maison de vie, sans m'inquiéter de ce qui pouvait entrer ou sortir. Vous me dites alors, je m'en souviens, assez durement, et assez justement aussi dans un sens, que j'avais détruit la maison d'un être humain par une folle expérience fondée sur une absurde théorie. Vous eûtes raison de me blâmer, mais ma théorie n'était pas toute absurdité. Ce que j'avais dit que Marie verrait, elle le vit. Mais j'avais oublié que nul œil humain ne peut contempler cela impunément. Et j'oubliais aussi que, la maison de vie une fois ouverte, il peut y pénétrer ce pour quoi nous n'avons pas de nom. Et la chair humaine devenir alors le voile de l'inexprimable. J'ai joué avec des forces inconnues, et vous en savez l'issue. Hélène Vaughan a bien fait de s'attacher la corde et de mourir, quoique sa mort dût être horrible. Cette face noircie, cette forme transformée sur le lit, fondante et passant à vos yeux de la femme à l'homme, de l'homme à la bête et de la bête à pis que la bête, tout cela dont vous fûtes témoin m'étonne à peine. Ce que contempla le docteur appelé par vous, je l'avais observé longtemps avant lui, car je compris mon œuvre à la naissance de l'enfant. Et elle avait 5 ans à peine que je la surpris, non pas une fois, mais 100, jouant avec tel compagnon que vous devinez. Ce fut pour moi une angoisse constante. Et après quelques années, sentant que je ne la pouvais supporter davantage, j'envoyais Hélène Vaughan ailleurs. Vous savez maintenant ce qui effraya Trevor dans le bois. Le reste de cette histoire et tout ce qui en a été découvert par votre ami, j'en ai été tenu au courant malgré moi, jusqu'au dernier chapitre. Et maintenant, Hélène est avec ses compagnons. Telos. Nota. Hélène Vaughan naquit le 5 août 1865 à Red House, Breconshire, et mourut le 25 juillet 1888, en sa maison, dans une rue qui donne sur Piccadilly et qui est dénommée Ashley Street, le long de ce récit. C'était « Le grand dieu Pan » de Arthur Machen.